Chapitre 11. Pirates et contrebandiers. Le prince Kong, vice-roi des trois provinces du Sud-Est et cousin de l'empereur, était à cette époque un homme tout jeune encore et d'une grande intelligence. Très au courant des choses de l'Europe, grâce aux jésuites sous la direction desquels il avait terminé son éducation à Pékin, il désapprouvait la politique légendaire d'isolement que pratiquait toujours avec ardeur le gouvernement impérial. Il faisait au contraire le meilleur accueil aux étrangers. S'il était resté l'ennemi des missionnaires et des contrebandiers d'opium, cela tenait à des considérations toutes particulières. Fort sceptique en matière religieuse, comme le sont tous les Chinois des classes élevées, il aurait laissé les prêtres catholiques catéchiser à leur aise, si ceux-ci n'avaient pas souvent sapé l'autorité par leurs enseignements. Et les populations de sa vice-royauté auraient pu s'enivrer nuit et jour sans qu'il s'en occupât un seul instant, convaincu qu'il était d'ailleurs que c'est la prohibition qui aiguillonne les désirs, et s'il n'avait pas vu dans cette importation la seule cause de la crise monétaire dont souffrait l'Empire depuis si longtemps. En effet, avant l'introduction de l'opium, la Chine regorgeait de monnaie d'or et d'argent, car l'Europe n'ayant rien à lui fournir, ses navires y venaient sur l'Est, et pour en emporter les porcelaines, les thés et autres produits, les étrangers étaient obligés de débourser des sommes considérables qui, naturellement, restaient dans le pays où on les transformait en langots. Le marquis de Wellesley, le premier, alors qu'il était gouverneur général des Indes, avait été frappé de ce danger, et ce fut pour le conjurer qu'il inventa ce commerce de l'opium dans le seul but de faire ressortir de l'Empire du Milieu la plus grande partie de l'argent que l'Europe et l'Amérique y laissaient. On voit qu'il ne s'agissait là ni de morale ni de salubrité politique, mais tout simplement d'un équilibre financier fort intéressant à défendre. Le prince Kong, pour sa part, n'envisageait pas la question à un autre point de vue, mais comme il s'en rapportait plus encore aux pirates qu'aux bateaux douaniers pour faire la chasse aux fraudeurs, il en résultait, pour les bandits qui infestaient la côte et le bas du fleuve, une véritable impunité lorsqu'ils s'attaquaient à des bâtiments européens. De cette façon, le vice-roi atteignait son but sans compromettre ses relations avec les puissances étrangères. Mais le capitaine Perkins avait deviné cette complicité. Ming, qui avait rempli longtemps les fonctions de mandarin à Boca Tigris, le lui avait à peu avoué dans ses épanchements amicaux, et elle lui avait été prouvée par un fait dramatique qui s'était produit peu de temps avant l'assassinat du jeune Ling Tianlang. Deux contrebandiers d'opium, le Naïade et l'Agile, avaient été attaqués, dévalisés et coulés par les pirates à quelques milles en-dessous de le Macao, sans que les bâtiments de guerre chinois en station sur cette rade eussent rien tenté pour venir à leur secours. Les équipages de ces deux navires avaient été massacrés et, pour toute satisfaction, le prince avait fait condamner à mort quelques misérables capturé dans le bas du fleuve. Il devait être pendu sous peu à Hong Kong. Le gouverneur de la colonie anglaise avait vainement offert de se mettre à la tête d'une expédition contre les îles Ladrones, île bien nommée, on le voit, qui était le repère de ces terribles écumeurs de mer, mais les autorités de Canton s'y étaient formellement opposées. Et comme, malgré tout, on osait faire un casus belli de ces attaques contre des gens en lutte avec les lois, les attentats se renouvelaient souvent. Les contrebandiers s'étaient alors décidés à se défendre eux-mêmes, ou par la force ou par l'argent, c'est-à-dire en combattant les pirates ou en les achetant, ainsi qu'ils achetaient les mandarins de Boca Tigris. Et dans l'intérêt général, ils avaient donné plein pouvoir à Perkins, qu'ils reconnaissaient le plus énergique ainsi que le plus habile d'entre eux. Or Perkins avait la conviction que les bandits du fleuve faisaient partie de cette redoutable association de malfaiteurs, le Nénuphar blanc, qui tenait en échec la police chinoise aussi bien sur la terre ferme que sur les eaux, et il s'était dit qu'en devenant le défenseur de Saul Brodé, il trouva bien certainement l'occasion d'avoir, sur la mystérieuse société, les renseignements qui lui étaient nécessaires pour se diriger vers l'un des buts qu'il voulait atteindre. La première chose était d'intéresser le prince Kong au sort des condamnés. Nous allons voir que, cet égard, son plan était ingénieusement conçu. Le jour même de sa visite à la factorerie, Madame Liu avait fait traduire et copier sa requête, et le surlendemain, pleine de résolution, elle était auprès du capitaine et de ses amis, sur le quai où le vice-roi devait mettre pied à terre avant de s'embarquer. Bientôt, des détonations d'artillerie annoncèrent l'arrivée du représentant de l'empereur, et la tête de son cortège parut à l'extrémité de l'esplanade où était réunie depuis le matin une foule innombrable. C'étaient d'abord deux coureurs à la livrée impériale et armés de fouets pour ouvrir les rangs de la populace dans le cas où leur respect ne suffirait pas. Ces coureurs criaient à tue-tête le nom de leur maître. Ils étaient immédiatement suivis d'une escorte de cavaliers et de domestiques qui frappaient à intervalles réguliers sur des gonds de bronze. Après ces premiers groupes venaient trois hommes coiffés de hauts bonnets en fil de fer, parés de plumes vertes. Ils portaient, comme emblème de la puissance du prince, des chaînes dont ils agitaient les anneaux en cadence. Et on apercevait derrière eux, au milieu de gens armés de rotins ou de bambous, deux valets qui soutenaient au-dessus de leur tête une large planche sur laquelle étaient écrites en grandes lettres d'or les noms et qualités de son Altesse. La litière du vice-roi venait ensuite. C'était un superbe palanquin garni de rideaux de soie et surmonté d'un toit voûté recouvert d'un treillis d'argent. Il était porté par quatre hommes que suivaient quatre autres porteurs au change. De chaque côté se tenaient trois ou quatre officiers d'ordonnance et des serviteurs avec de larges parasols. Puis on reconnaissait un peu plus loin les dignitaires du palais. Ce cortège vraiment royal se terminait enfin par un second groupe de cavaliers tartares, le sabre à la main. La foule s'était ouverte respectueusement et se taisait, car en Chine, à l'opposé de ce qui se passe chez nous, c'est par le silence qu'on prouve son respect, et le palanquin atteignit bientôt l'endroit du quai où une splendide gondole attendait le gouverneur. Dix autres embarcations étaient prêtes à recevoir les gens de sa suite. Au moment où le prince mit pied à terre, la mère de Saul Brodé se sentit trembler, mais Perkins et ses amis, auxquels l'Altesse avait rendu gracieusement leur salut, la poussèrent en avant, et sans trop savoir comment cela s'était fait, elle se trouva tout à coup à genoux devant le cousin de l'empereur. Son apparition subite avait causé parmi les officiers un violent émoi, et deux d'entre eux s'étaient élancés pour la rejeter en arrière, mais le prince Kong leur ordonna de n'en rien faire, et se penchant vers elle, il lui demanda avec douceur ce qu'elle désirait. « Justice, Seigneur, justice pour ma fille !» gémit Madame Liu à travers ses sanglots. Ils l'ont condamnée à mort, mais elle est innocente, je vous le jure. » Le vice-roi échangea quelques mots avec un de ses secrétaires, força la suppliante à se relever et lui dit, en prenant le placet qu'elle lui présentait, « Je sais ce dont il s'agit et je vous promets d'examiner cette affaire avant d'en envoyer le dossier à Pékin. « Oh, je ne puis rien de plus, aucun de nous n'est au-dessus des lois. » Après avoir prononcé ces paroles avec une grande dignité, il donna un ordre à l'un de ses aides de camp tout en se dirigeant vers son embarcation. Et Madame Liu allait se retirer lorsque cet officier s'approcha d'elle pour lui dire « Madame, son Altesse vous prie de ne pas vous éloigner. Elle désire vous revoir à son retour du temple. Veuillez me suivre. » En revenant de Henan, vous monterez dans un des palanquins du cortège pour vous rendre au palais. À cette invitation inattendue, la pauvre femme chercha des yeux ses amis, et Perkins, lui ayant fait un geste d'encouragement, répondit à l'aide de camp qu'elle se tiendrait à ses ordres. Le vice-roi était déjà dans sa gondole qui se dirigeait vers l'île de Honan, sous l'impulsion de ses 20 rameurs et aux détonations répétées de l'artillerie des forts. En prenant place dans le canot où on l'avait conduite, Madame Liu aperçut de nouveau le capitaine et Sir Arthur. Ils s'embarquaient eux-mêmes pour gagner le temple. Mais, pas plus que son protecteur, elle remarqua deux matelots chinois qui, dissimulés dans les rangs de la foule, avait assisté sans en perdre le moindre détail à la scène que nous venons de raconter. Depuis le départ du prince, il ne quittait plus les Européens du regard et s'efforçait de maintenir le léger bateau où ils étaient descendus dans les eaux de leur embarcation. L'un de ces marins était grand et maigre, et si Rose eût accompagné Madame Liu, elle n'aurait pas manqué de le reconnaître malgré son travestissement, et quoiqu'il tînt soigneusement rabattu sur son visage le large chapeau de paille dont il était coiffé, car cet homme n'était autre que Chou, le boucher de la rue des Batteurs d'Or, qui avait disparu de Funsi depuis 2 mois et dont personne n'avait plus entendu parler. « Ainsi, demanda-t-il à son compagnon, tout en maniant vigoureusement son aviron, « t'es bien sûr que ce chien d'étranger est le commandant de l'éclair ?» C'était le nom de la goélette de Perkins. « Oui, j'en suis certain, » répondit le matelot. « Je l'ai vu 10 fois au poste de douane à Boca Kidris, lorsqu'il allait chez le mandarin Ming. »« Et où l'éclair est-il à l'ancre ?»« Sous l'île Lintin, il attend le renversement de la mousson avant de reprendre la mer. » « Eh bien, il ne retournera pas au Bengale, je le jure, quand je devrais y perdre mon nom de l'araignée rouge. » Et il ajouta à demi-voix, avec un inexprimable accent de haine. En se faisant le défenseur de Liu Xiu, de cette misérable qui s'est jouée de moi, le capitaine de l'éclair est devenu 2 fois mon ennemi. Le vice-roi venait d'accoster au débarcadère de Honan, où les prêtres de Bouddha l'attendaient. Bientôt il entra sous le premier portique du temple, et Chou put apercevoir encore une fois Perkins et Sir Arthur, qui, après avoir envoyé à Madame Liu un dernier salut affectueux, pénétrèrent eux aussi dans la pagode. Alors le boucher sautela lestement à terre, et disparut dans la foule. Ce temple de Honan, malgré la célébrité dont il jouit, donne une assez triste idée de l'importance qu'ont en Chine les choses religieuses. S'il est vraiment, comme le prétendent ses gardiens, le plus riche de l'Empire, il est peu de pays dont les divinités soient plus mal logées. Si on ne s'y rend pas en canot, c'est-à-dire si on gagne l'île de Honan par le pont qui la réunit à la terre ferme, on est forcé de traverser le plus sale et le plus bruyant des faubourgs de Canton. Depuis l'extrémité de ce pont jusqu'à la première enceinte du lieu saint, ce ne sont que ruelles étroites, occupées surtout par des boutiques de comestibles, des tripots et les monts de piété qui avoisinent toujours les maisons de jeu. C'est seulement lorsqu'on a échappé aux 1000 dangers de ce quartier infect qu'on arrive, après avoir franchi une grille forte et étroite, à un endroit où règne au contraire le silence le plus complet et le calme le plus religieux. On est là, dans un immense enclos, ceint de murailles de plus de 30 pieds de hauteur, et dont le temple de Bouddha, amas sans ordre de construction bizarre, occupe le centre. Pour y entrer, il faut passer sous un second portique que défendent deux gigantesques statues horriblement coloriées, qui ne résistent aux injures du temps que grâce aux toitures dorées qui les protègent, car elles ne sont qu'en papier goudronné. Elles représentent cependant deux des plus fameux guerriers de l'Empire du Milieu. Quant à l'édifice principal, au temple proprement dit, c'est un bâtiment énorme, divisé en une foule de petites salles consacrées chacune à des divinités particulières. L'endroit le plus remarquable est le sanctuaire où règne Bouddha. C'est une galerie d'une centaine de pieds de superficie, dont le sol est pavé de mosaïques du plus charmant aspect. Mais en l'honneur du vice-roi, on y avait étendu un épais tapis. De grands cadres, au milieu desquels étaient tracés en lettres d'or des maximes, ornaient les murailles peintes en rouge. Le dieu était représenté là par trois statues qu'on appelle les trois Pao, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir, qui donnent au célèbre réformateur ces traits insipides dont l'ont gratifié les hindous. Ces statues étaient entourées de petits autels d'argent massif sur lesquels brillaient des parfums. Mais l'ornement le plus extraordinaire de cette partie du temple était bien certainement les deux grands dragons de bronze aux ailes déployées qui en occupaient les deux extrémités et semblaient, de leurs yeux de pierre précieuse, veiller sur le saint lieu. Le prince prit place sur le trône qui lui était réservé, en face des statues de Bouddha. Ses officiers se groupèrent autour de lui, et la cérémonie commença. Cérémonie des plus simples, car elle se borna à des chants religieux que les bons exécutèrent pendant que les moines les accompagnaient par des sonneries assez harmonieuses. Moins d'un quart d'heure plus tard, tout était terminé, et le vice-roi quittait la pagode après avoir fait un riche présent au monastère. Sa gondole le reconduisit sur la terre ferme, où il retrouva son palanquin et reprit le chemin de sa résidence, suivi cette fois par Madame Liu, qu'on avait fait monter dans une chaise à porteur. Aussitôt arrivée au palais, elle fut conduite dans l'appartement des femmes, et la journée se passa pour elle en des alternatives d'espérance et de désespoir, car elle attendit vainement que le prince la fît demander. Lorsque la nuit vint, ses angoisses s'augmentèrent de toute la douleur qu'elle éprouvait de ne pouvoir rejoindre sa fille. Ne parvenant pas à trouver de repos, elle retournait par la pensée auprès de Saul Brodé, et se rappelait alors cette existence heureuse et calme qu'elle menait, il y avait si peu de temps encore, dans sa petite maison de Funsi. Elle ne se doutait pas que cette demeure modeste, où le malheur s'était déjà abattu et dont elle avait confié la garde à Rose, était en ce moment même le théâtre d'un nouveau drame. Sachant fort bien que ni Liu Xiu ni son cousin Ité ne pouvaient être les auteurs du crime qui les menait au supplice, l'imprudente servante vivait en proie à toutes les craintes. 20 fois elle avait été sur le point de courir à Canton pour dire au préfet de police ce qui s'était passé entre elle et Chou, car elle était convaincue que cet homme était le meurtrier de Ling, mais elle avait espéré jusqu'au dernier moment que les deux innocents ne seraient pas condamnés. Mais depuis qu'elle connaissait le sort qui les attendait, la peur des conséquences que pourraient avoir pour elle ces déclarations trop tardives lui faisait garder un silence qui la rendait complice de l'assassin. Seulement elle n'osait même plus sortir, car dès qu'elle ouvrait sa porte, ses yeux s'arrêtaient malgré elle sur les fenêtres fermées de la boutique du boucher. Il lui semblait que le monstre que les gamins s'étaient amusés à y esquisser en rouge s'animait à sa vue et allait s'élancer sur elle. C'est dans ces dispositions d'esprit que Rose s'était enfermée dans la maison de Madame Liu le soir de ce jour dont nous venons de raconter les divers épisodes. Mais, ainsi que le faisait sa maîtresse dans le palais du gouverneur, elle appelait vainement à elle le sommeil. Mais la nuit était venue depuis longtemps, la ville était plongée dans le repos, les rues étaient désertes, et ce silence même l'épouvantait. La peur autant que le remords la tenait éveillée. Tout à coup, elle entendit dans la rue le bruit de plusieurs pas, et presque au même instant, avant qu'il eût pu faire un mouvement, elle était garrottée, bâillonnée de façon à ne pouvoir même jeter un cri. Il lui parut alors que trois hommes au moins s'étaient introduits dans l'habitation, mais l'obscurité était si complète qu'elle n'avait pas distingué leurs traits. Bientôt, elle put les voir tout à son aise, car deux de ces individus l'avaient transporté dans la salle à manger où ils avaient allumé une lampe. Ils étaient trois, en effet, vêtus en pêcheurs du bas du fleuve et du plus effrayant aspect. « Entrons-nous, » dit celui qui paraissait leur chef. « Allez, ficelez-moi cette belle comme un collier, et si elle crie, étranglez-la. » La jeune fille se sentit perdue. Les deux bandits qui la maintenaient couchée à terre lui avaient jeté sur le visage un morceau d'étoffe qu'ils avaient lié autour de son cou, et les cordes à l'aide desquelles elle était attachée meurtrissaient ses bras et ses jambes. « Est-ce fini ?» demanda brutalement cette même voix qu'elle avait déjà entendue. « Oui, » répondit l'un des pêcheurs. « Alors filons !»« Oh, pas les mains vides !» C'est pas le tout que de soigner les affaires du maître, il faut aussi songer un peu aux nôtres. » Et sans attendre d'y être autorisé, il disparut avec son second compagnon dans la pièce voisine. 5 minutes après, ils revenaient portant chacun sur l'épaule un lourd paquet. En un tour de main, ils avaient dévalisé la maison de tout ce qu'elle renfermait de précieux. En route maintenant! Leur dit celui qui les commandait. Les deux misérables soulevèrent la servante, l'un par la tête, l'autre par les pieds, et se dirigèrent vers la porte de sortie. Le troisième personnage les avait précédés dans la rue pour s'assurer qu'elle était déserte. Il n'y passait personne. On n'apercevait pas même la moindre lumière dans les habitations voisines. Il appela ses hommes à voix basse, et après avoir fermé doucement la porte derrière eux, il se mit à la tête du sinistre groupe, qui prit à quelques pas de là une ruelle descendant directement vers le fleuve. Après avoir confié à son ami sa part d'objets volés, l'un des marins s'était chargé de Rose. Jeté sur son épaule et courbé en deux, elle lui paraissait un paquet de filets de pêche. En 5 minutes, ils atteignirent la rive. La nuit était sans lune et le ciel sans étoiles. Les flots de la rivière des Perles, dont on ne pouvait distinguer les bords, roulaient lugubres, faisant se heurter les uns contre les autres des bateaux attachés à des pieux enfoncés dans la vase. Celui qui dirigeait cette étrange expédition attira l'un de ses bateaux, et après s'être assuré qu'il s'y trouvait des avirons, il y fit monter son monde. Puis, coupant la mare qui le retenait, il le lança au large d'un vigoureux coup de rame. Le courant était rapide, mais néanmoins les ravisseurs gagnèrent assez rapidement la rive opposée, où les eaux étaient plus tranquilles. Là, le fleuve des Perles se divise en 3 grands bras, dont 2 seulement sont navigables et débouchent au-dessus des forts de Tocatigris. Le 3e, semé de rochers et de bas-fonds, est de plus entravé dans sa course par une chute d'eau dont les grondements multipliés par les échos s'entendent à 3 ou 4 milles de distance. C'était cependant vers ce bras dangereux que les bateliers s'étaient dirigés. Mais ils y naviguaient depuis 10 minutes à peine lorsque celui qui leur servait de pilote poussa un cri qui ressemblait à s'y méprendre à celui du Guamala, l'oiseau diable. Un même cri lui répondit, et un homme parut sur le rocher contre lequel les flots se brisaient. Les marins levèrent rames et le canot s'échoua sur le rivage. « Est-ce toi, Wumpy ?» demanda le personnage qui semblait avoir subitement surgi des eaux. « C'est moi, maître, » répondit le pêcheur. « Est-ce fait ?»«
Oui, la femme est là. »«
Alors à l'œuvre, vous autres !» Ces mots s'adressaient à une douzaine d'individus dont on distinguait à peine les têtes au-dessus des hautes herbes. Ils attendaient évidemment l'ordre qu'ils venaient de recevoir, car ils descendirent aussitôt dans la rivière, où plusieurs d'entre eux disparurent jusqu'aux épaules, et se livrèrent là, dans l'obscurité la plus profonde, à un travail dont il était impossible de pressentir le but. Divisés par groupes de trois, ils avaient saisi les extrémités de fortes cordes attachées à des bouées, et ils unissaient leurs efforts pour soulever un objet qui devait reposer au fond de la rivière. Bientôt, en effet, cet objet inconnu émergea de son asile secret. C'était une longue embarcation peinte en rouge ainsi que ses avirons. Embarcation de course ou de pirate, car son avant était d'une extrême finesse et il y avait place pour 20 rameurs. Grâce à la large soupape qui s'ouvrait sur un de ses flancs, on pouvait instantanément la couler et par conséquent la dérober à toutes les recherches. En quelques minutes, les lugubres travailleurs soulevèrent le canot de façon à vider l'eau qu'il contenait, fermèrent la soupape, la remirent à flot et s'assirent à leur banc. Wumpy avait transporté Rose, qui, toujours solidement attaché, mais débarrassé du voile dont on lui avait couvert le visage, suivait d'un regard épouvanté cette scène étrange. Tout à coup, l'embarcation trembla sous un choc violent. Celui que les pêcheurs appelaient le maître venait d'y sauter d'un seul bond. Il s'était emparé du long aviron qui allait lui servir de gouvernail. « Tchou !» murmura la pauvre servante dont le bâillon étouffait les cris. Elle avait reconnu avec horreur le boucher de la rue des batteurs d'or. « Oui, tchou !» répondit celui-ci en se penchant sur elle comme pour se repaître de sa terreur. « Oui, tchou, dont la trahison de ta maîtresse avait un assassin !» Tchou, l'araignée rouge, qui se vengera de ses tortures sur toi, comme il s'est déjà vengé sur Saul Brodet. Et repoussant brutalement du pied la malheureuse, il donna brièvement un ordre. Les 20 pirates se courbèrent sur leurs rames, et la yole gagna en un instant le grand bras du fleuve. La lune venait de se lever. Sous ses pâles reflets, la sinistre embarcation prenait un aspect plus sinistre encore. Debout à l'arrière, Chou en paraissait être le génie malfaisant. Chaque fois que ses 20 matelots soulevaient hors de l'eau leurs rouges avirons, il semblait qu'il en retombait dans le fleuve une pluie de sang. On eût dit un monstre gigantesque qui glissait sur les flots. Bientôt, elle disparut au milieu des ombres de la nuit, et on n'entendit plus que le bruit cadencé de ses rames dans le lointain. Chapitre 12. La justice du vice-roi. Cependant, quoi qu'en pensât Liu, le prince Kong ne l'oubliait pas, mais il avait dû expédier d'abord toutes les affaires dont la solution avait été renvoyée à son retour dans Canton, Et ce fut le soir seulement qu'il prit connaissance de son placet. Dans ce document, le capitaine Perkins exposait les faits avec une telle habileté d'analyse et il en tirait des conclusions si logiques que le vice-roi fut immédiatement frappé non pas tant de l'innocence de Saul Brodey et de son cousin que du peu d'efforts tentés par Ming pour arriver à la découverte de la vérité. Le contrebandier, qui avait visité le théâtre du crime et s'était renseigné auprès de Ling Tianlo, expliquait en effet comment 20 témoins étaient prêts à jurer que le jeune Ité n'avait pas quitté un seul instant les salons de la villa et qu'il en était sorti avec les invités à la fin de la soirée seulement. Quant à Saul Brodey, contre qui le juge avait abandonné une accusation directe d'assassinat, il n'était pas plus raisonnable, selon le marchand d'opium, de l'en croire la complice, car sa mère, qui l'adorait, ne l'avait pas contrainte à épouser Ling Talang. Elle n'avait donc nul intérêt à faire disparaître son mari, surtout avant même de l'avoir vu. On avait enfin trouvé chez Ité aucun des bijoux volés dans la chambre nuptiale, continuait le rapport de Perkins, et sans s'arrêter à cette idée que le jeune prêtre n'était pas assez robuste pour avoir pu se rendre maître de Ling, puisqu'il paraissait certain que cet infortuné avait été d'abord empoisonné, il n'en était pas moins évident que ni les traces des pas imprimées sur le sable du jardin, ni l'empreinte de la main sanglante trouvée sur l'un des coussins du lit, ne pouvaient provenir de cet accusé, puisque ses pas étaient longs et larges, et la main celle d'un homme de grande taille. Or, il était frêle, délicat, il avait des pieds et des mains de femme. Ming ne s'était pas préoccupé un seul instant de toutes ces contradictions. En ce qui concernait la rencontre d'Ité avec le père de Ling à la pagode Mi, elle était certainement toute fortuite. Si le jeune homme avait fait au riche négociant cette proposition de mariage, qui pour le juge était devenue une infernale préméditation, elle ne prouvait au contraire que les bons sentiments de celui qu'on transformait si rapidement en criminel. Quant à l'éventail du lettré trouvé sous le cadavre de Ling Talang, le capitaine affirmait que c'était au contraire une preuve irréfragable de son innocence, car cette pièce de conviction s'était rencontré là trop à point pour ne pas y avoir été placé intentionnellement. Ce qui paraissait indiscutable, c'est que l'assassin connaissait Ité ainsi que ses rapports avec la mère de Saul Brodey, puisqu'il avait si habilement fourni à la justice la proie qui devait permettre au véritable coupable de détourner de lui les soupçons. C'était donc, concluait le défenseur des deux innocents, sinon parmi les amis de Madame Liu, du moins parmi ses connaissances ou les gens qui pouvaient être au courant de ses habitudes, qu'il fallait chercher le meurtrier. À cet égard, les renseignements que pourrait donner la servante Rose seraient très précieux. Toutes ces observations obtinrent ce résultat, c'est que, bien qu'il n'eût terminé la lecture de ce rapport que fort tard dans la soirée, le prince Kong avait cependant envoyé à Ming l'ordre de comparaître devant lui le lendemain à la première heure. Il avait également commandé à l'un de ses aides de camp de se transporter à Funxi au point du jour et d'en ramener la domestique de Madame Liu, que ni le préfet de police ni le magistrat n'avaient songé à interroger. Ming, que nous n'avons encore vu que sur son siège de président de la cour criminelle de Canton, fut vivement ému lorsqu'on le réveilla en lui annonçant un messager du palais. Ne l'ayant pas trouvé en ville, ce courrier était venu le chercher à l'île de Honan. Le mandarin comprit qu'il s'agissait alors d'une affaire importante. Il questionna vainement cet officier qui ne savait rien. Mais l'ordre était précis, le vice-roi l'attendrait dans la matinée. Ming passa le reste de la nuit à se demander ce que le cousin de l'empereur lui voulait. Le brave magistrat avait bien, ainsi que ses collègues, quelques peccadilles sur la conscience, surtout à propos de ses dernières fonctions à Bocati Gris, où ses traités secrets avec les contrebandiers avaient doublé sa fortune. Mais ces tripotages étaient si complètement dans les mœurs des fonctionnaires que ce ne pouvait être là le motif de l'ordre du prince. Quoi qu'il en fût, cela l'inquiétait. Il avait le pressentiment que la vie si douce et si calme qu'il s'était faite allait être troublée. Ming, à cette époque, était un bon gros homme, assez débonnaire, savant puisqu'il était parvenu à un poste élevé, mais d'une intelligence ordinaire. C'était surtout un sybarite, dans l'acception complète du mot. Sa table passait pour une des meilleures de la province, et les mauvaises langues prétendaient qu'il n'entrait à son service que des servantes jeunes et jolies, quoiqu'il fût, lui, marié et père de famille. On ajoutait même qu'on avait parfois reconnu sa gondole la nuit, dans la rade de Canton, aux environs des bateaux de fleurs. Ce qui était certain, ce que Perkins et Sir Arthur auraient pu affirmer, c'est que le grave président préférait infiniment le sherry et le vin de France, surtout le champagne, à l'eau-de-vie de riz. Il en coûta donc beaucoup à Ming de quitter sa douce retraite le lendemain matin au lever de l'aurore. Mais il savait que le gouverneur des trois provinces ne plaisantait pas avec ses subordonnés. Aussi, à l'heure fixée, son palanquin franchissait-il le seuil du palais. La promenade, le grand air, les hommages dont il avait été l'objet sur sa route, tout cela l'avait un peu calmé, et ce fut avec sa physionomie souriante habituelle qu'il répondit au salut militaire que lui adressa le factionnaire à la porte de la galerie qui conduisait au salon de réception de son Altesse. Tout à coup, au moment où il allait se faire annoncer, il se trouva en face de Madame Liu, que le prince avait fait appeler. Il comprit aussitôt qu'il s'agissait du procès de Saul Bronné et redevint tout à fait tranquille. Dans sa fatuité de jurisconsulte impeccable, il était convaincu d'avoir conduit cette affaire avec soin et en toute justice, et il se dit que, sans aucun doute, on désirait tout simplement lui demander quelques dernières explications. Ce fut alors avec l'air d'un homme irréprochable qu'il se présenta devant le vice-roi. Seulement, quand après avoir exécuté les trois génuflexions d'usage, il leva les yeux sur lui, il fut frappé de son regard sévère et commença à craindre de s'être trompé dans ses agréables suppositions. Le prince Kong, en effet, avait à peine répondu à son salut. Accoudé sur sa table de travail et entouré de ses secrétaires, il feuilletait un volumineux dossier que Ming reconnut pour être celui de l'affaire Ling. Et pendant un quart d'heure au moins, il ne s'inquiéta pas plus du magistrat que si celui fut encore dans sa villa de Honan. Madame Liu avait été introduite en même temps que Ming, et sur un geste du prince, elle s'était assise. Tout cela troublait fort l'ex-mandarin de Bocati Gris, qui faisait timidement son examen de conscience, lorsque le cousin de l'empereur, relevant la tête, lui dit brusquement « Monsieur le Président, j'ai examiné avec une grande attention le dossier relatif à l'assassinat de Ling Talong et je n'y ai pas aperçu tous les documents qui exigeaient la solution d'une affaire aussi grave. C'est pour cela que je vous ai fait venir car, avant d'envoyer ces pièces à Pékin, j'ai besoin de renseignements que vous seul pouvez me donner. » « Je suis aux ordres de votre Altesse, » dit Ming en s'efforçant de paraître calme. « Ben, je ne trouve pas, » poursuivit le prince, « que l'instruction de ce procès ait été faite avec tout le soin désirable. Je regrette surtout que le préfet de police et vous ayez cru nécessaire de soumettre à un emprisonnement préventif très pénible la jeune mariée sur laquelle se sont tout naturellement portés vos premiers soupçons. Un savant tel que vous ne doit point ignorer cependant que les femmes d'une certaine classe, accusées d'un délit ou d'un crime, peuvent être laissées sous la garde de leurs parents, les plus proches, qui en répondent sur leur tête. Madame Ling a encore sa mère. Sauf les motifs que vous pouvez invoquer pour expliquer votre rigueur à son égard, je pense donc que vous auriez pu la confier à sa surveillance. Le crime dont cette personne s'était rendue coupable, répondit Ming avec une certaine fermeté, m'a paru d'une nature si exceptionnelle que j'ai cru devoir la faire conduire à la prison pour donner satisfaction à l'opinion publique. Ah non, le juge ne doit jamais se laisser émouvoir par les rumeurs du dehors. C'est les oreilles fermées qu'il a le devoir d'accomplir sa tâche. L'accusée a avoué son crime. Elle l'a avoué vaincue par la torture. Mais soit, passons à un autre point. Avez-vous confronté les traces de pas découvertes dans le jardin de la villa avec celles qu'auraient pu y faire les sandales de Ité? Non, je l'avoue. Eh bien, vous avez commis là une première faute, car vous auriez vu que ce n'était pas ce jeune prêtre, dont les pieds sont extrêmement petits, qui avait pu laisser ces traces. Elles sont celles d'un homme fort et de grande taille. Il en est de même de l'empreinte sanglante aperçue sur l'un des coussins du lit nuptial. Ce n'est ni l'un ni l'autre des deux condamnés qui a pu l'imprimer là. Elle provient d'une main énorme. Avez-vous enfin fait une enquête à Fonsi, la ville qu'habitait Saul Brodé la veille de son mariage, la veille du crime? Non, murmura Ming, se troublant de plus en plus. Vous ne vous êtes pas informé si Madame Liu avait quelque ennemi, si sa fille n'était pas recherchée par quelque autre que Ling Talang? Mais justement par son cousin Ité. C'est là ce qui m'a conduit à supposer, puis à être convaincu que ce prétendant jaloux était l'assassin. Mais c'est faux, dit Madame Liu, qui ne perdait pas un mot de cet interrogatoire. Mon neveu m'avait, il est vrai, manifesté le désir de devenir mon gendre, mais il m'avait suffi de lui dire une fois que ce mariage était impossible, et il s'était soumis. Le prince fit signe à la pauvre mère de se taire et reprit. Vous n'avez même pas songé à faire comparaître et interroger la servante Mekoui. Elle vous aurait donné peut-être quelques précieux renseignements sur les gens qu'elle a pu voir rôder autour de sa maison. C'est vrai, bégaya le mandarin, perdant de plus en plus la tête. Je n'y ai pas songé. Les aveux des accusés et la découverte de l'éventail de la nœud sous le cadavre de la victime, l'intérêt que seul Ité avait à la mort de Ling, bon, tout cela m'a paru des preuves suffisantes. Bien moi, j'ai pensé que cette fille devait être interrogée, et je l'ai envoyée chercher. Et le vice-roi donna un ordre à un de ses aides de camp. Celui-ci sortit pour l'exécuter, mais il revint presque aussitôt avec un de ses collègues dont la physionomie était toute bouleversée. « Qu'avez-vous donc ?» lui demanda le prince. « Pourquoi n'amenez-vous pas la personne en question ?»«
Parce que je ne l'ai pas trouvée, seigneur, » répondit l'officier.
« Vous ne l'avez pas trouvée ?»«
Non. Lorsque je suis arrivé à Fonsi ce matin, avant le jour, avec mes 4 soldats de police, j'ai frappé inutilement à la porte indiquée. » Alors, je l'ai fait ouvrir pour visiter la maison. Il n'y avait plus personne. Je l'ai fouillée du haut en bas. Elle était vide. Les chambres étaient pillées, les meubles brisés. Ce vol ne devait remonter qu'à un très petit nombre d'heures, car dans la salle à manger, une lampe brûlait encore.
Avez-vous au moins questionné les voisins?
Je n'y ai pas manqué. Ben, aucun d'eux n'a rien vu, n'a rien entendu.
Le chef des trois provinces, visiblement irrité, s'était levé
et arpentait son salon à grands pas. Ming n'osait prendre la parole. Madame Liu, que ce nouveau malheur accablait, gardait elle-même le silence. « Vous le voyez, monsieur le président, » dit tout à coup le vice-roi en s'arrêtant devant le magistrat. « Voici un second crime qui, bien certainement, est la conséquence de votre arrêt. Il suffirait pour me convaincre de l'innocence de ceux que vous avez condamnés, car il me paraît évident que ce sont les véritables assassins de Ling qui, pour empêcher cette servante de parler, l'ont fait disparaître. À moins qu'il n'ait cette fille elle-même pour complice. Quoi qu'il en soit, vous avez failli, selon moi, de la façon la plus grave à vos devoirs. Voici ce que je décide. Le dossier de cette affaire va partir pour Pékin avec les annotations que je jugerai convenable d'y ajouter. Il ne pourra me revenir avant 30 jours. Vous avez donc un mois devant vous. Si dans un mois vous avez découvert les véritables coupables, les innocents seront réhabilités et vous aurez réparé votre faute. Mais si, à l'expiration de ce délai, les choses sont dans l'état où elles se trouvent, et si notre auguste souverain m'envoie l'ordre de laisser la justice suivre son cours, Madame Ling et Ité seront exécutés, car le premier de tout, je dois donner l'exemple du respect à la loi. Mais vous, le juge, vous recevrez 100 coups de bambou. 100 coups de bambou, dit Ming en balbutiant. 100 coups de bambou. Il espérait qu'il avait mal entendu. « Oui, 100 coups de bambou !» répéta l'altesse. « C'est la mort !»« Mais peut-être, des innocents mourront bien, eux aussi. Allez, et que la Haute-Sée vous vienne en aide !» Et sans s'inquiéter autrement du gros président de la cour criminelle, le prince Kong sortit aussitôt. Ming était atterré. Il s'affaissa sur un siège. Quand il parvint à se traîner jusqu'à son palanquin, ses serviteurs furent obligés de l'y étendre. « 100 coups de bambou !» répétait le pauvre homme tout le long de la route. « À moi, Ming, mandarin de 3e classe !» Lorsqu'il arriva sur le quai où l'attendaient ses matelots pour le reconduire à Hunan, son visage était vraiment décomposé. Il dut réclamer l'aide de 2 de ses porteurs pour gagner son embarcation. « Qu'avez-vous donc, mon cher magistrat ?» lui demanda tout à coup un Européen au moment où il allait mettre le pied à bord. « Comme vous voilà faible, vous est-il donc arrivé quelque malheur ?» Ming se retourna. Perkins était devant lui. « Oh, ce que j'ai !» répondit l'infortuné juge, en reconnaissant son vieil ami de Boca Tigris, « ce que j'ai, je suis déshonoré, perdu, mort. 100 coups de bambou, 100 coups de bambou !» Il s'embarqua lourdement, sans pouvoir en dire davantage.